Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Nouvelle semaine de négociations cruciales pour la paix en Ukraine. Les appels à une trêve se multiplient. Kiev demande 30 jours, Moscou en propose 3. Moscou qui maintient l'intransigeance de ses conditions, soit la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et de 4 autres régions ukrainiennes. Autant d'annonces qui ont été précédées par de nouvelles offensives russes à Kiev, mais aussi à Soumy, dans cette région frontalière du nord-est du pays. Les bombardements n'ont pas cessé, si bien que la rédaction d'un hebdomadaire historique de la région a été forcée de déménager. Peremoha, c'est son nom, signifie victoire en ukrainien et informe ses lecteurs depuis plus de 90 ans. Il a dû évacuer son siège à Krasnopilia pour s'établir dans la ville de Soumy, mais la rédaction est désormais réduite au minimum, comme l'a constaté sur place notre correspondante Emmanuelle Chaz.
En cette matinée ensoleillée de printemps, Olga Kistenko, journaliste de Peremoha, nous rencontre à Soumy. Elle comptait se rendre à Krasnopilia, d'où elle a évacué il y a quelques jours, mais la situation ne le lui a pas permis.
Non, je n'ai pas pu y aller. Je voulais parler au député maire, mais il ne me répond plus.
Olga, comme la majorité de la population de Krasnopilia, a dû évacuer il y a quelques jours, et avec elle, les autres membres de la rédaction de l'hebdomadaire Peremoha, un journal de 4 pages qu'elle contribue à éditer depuis plusieurs années. Le journal, fondé en 1932, a survécu à la Seconde Guerre mondiale et a continué à publier après une interruption au début de l'invasion à grande échelle en 2022, lorsqu'une partie de la région de Soumy était occupée.
Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, nous autres, dans la région frontalière, avons dû interrompre notre publication parce qu'on ne pouvait pas travailler correctement ni livrer les journaux. Pas possible d'imprimer ni de livrer, donc on a eu une pause de plusieurs mois. Je vais vous montrer notre copie du 25 février 2022. Nous l'avons livrée en avril 2022.
Alors que les chars russes traversaient Krasnopilia, il a fallu tout cacher. Du nom du journal, car Peremoha signifie « victoire » en ukrainien, aux récompenses affichées au mur de la rédaction et aux preuves des affinités de la rédaction avec les soldats ukrainiens. Mais l'équipe est restée sur place.
Jusqu'à aujourd'hui, nous étions 4 à travailler pour Peremoha. Maintenant, nous ne sommes plus que 2 rédacteurs, puisque notre rédacteur en chef a signé un contrat avec l'armée, qu'il a rejointe le 25 mars 2025. Mais nous n'avons pas quitté Krasnopilia lors de l'invasion, ni abandonné notre communauté. Nous avons continué de l'informer, via Facebook notamment.
Fin mars, devant les bombardements incessants, la rédaction de Peremoha, qui imprime 1 millier d'exemplaires à destination de la population locale, a finalement dû se résigner et évacuer. À Soumy, emportant aussi les archives du journal, la rédaction a trouvé refuge au club de la presse locale, dont le directeur, Serhii Kanin, s'inquiète pour le sort de la presse régionale.
Ici, dans notre centre, on accueille une douzaine de rédactions qui peuvent travailler. Ailleurs, dans la région, il ne reste que les bureaux des gros médias. C'est difficile de dire qui va partir, qui reste. Les gens sont obligés de partir et c'est difficile de dire qui va pouvoir continuer à publier.
La vie de Peremoha, comme celle de beaucoup d'autres rédactions de la ligne de front dans la région de Soumy et ailleurs en Ukraine, est menacée par la guerre et avec elle la mission d'information auprès des populations locales. À cela s'ajoute un autre défi à relever, celui du financement.
Jusqu'à ce que les Américains imposent la fin de l'aide financière par le biais du USAID, nous travaillions grâce à ces subventions. Et on peut même dire que c'est grâce à ça que nous existions. Maintenant que ces subventions se sont taries, nous cherchons d'autres sources de revenus. Nous regardons s'il y a un moyen d'avoir des fonds européens. On va trouver.
Dans la sûreté toute relative de la ville de Soumy, elle aussi régulièrement touchée par des frappes russes, Peremoha porte bien son nom. Tout comme les Ukrainiens qui continuent de résister à l'agression russe et malgré les difficultés, la rédaction du journal local de Krasnopilia compte bien survivre elle aussi.
Et à noter que pour la première fois, la Corée du Nord a reconnu avoir envoyé des troupes en Russie pour aider Moscou à reprendre la région de Koursk, occupée par les troupes ukrainiennes. Moscou affirme aujourd'hui avoir repris le contrôle de cette zone frontalière, ce que dément l'Ukraine. Dans une semaine, l'Allemagne aura un nouveau chancelier, Friedrich Merz. Dans un pays marqué par la récession, le chef du gouvernement promet des investissements massifs dans les infrastructures. Pour ne donner qu'un exemple, le système de santé est au bord de l'implosion. On estime qu'en 2035, il manquera 300 000 médecins dans le pays. À mi-chemin entre Berlin et Hambourg, l'hôpital de Perleberg est un des plus gros employeurs de la région. Dans ce land qui a voté à près de 40% pour l'extrême droite lors des dernières législatives, les médecins étrangers ont été appelés à la rescousse pour combler ce désert médical. Une cohabitation qui est loin d'être évidente, c'est le reportage de Salomé Hénon-Cohen.
Dans cette clinique, seuls 2 médecins sur 8 que compte le service chirurgie ont obtenu leur diplôme en Allemagne. Les autres sont en train d'avoir leurs équivalences, explique le médecin-chef Stefan Lenz.
Officiellement, ils n'ont pas encore l'autorisation d'exercer en Allemagne, mais il s'agit bien sûr de collègues qui ont déjà exercé la médecine dans leur pays d'origine. Ils sont très bien formés.
Pour faire face au manque de main-d'œuvre dans le domaine médical, le docteur Lenz, avec la direction de l'hôpital, a décidé de leur donner une chance. Et cela s'est transformé en véritable projet pour la clinique.
Dans d'autres Länder près de Cologne, personne ne pourrait travailler sans autorisation. La possibilité de travailler avant cette approbation, d'exercer le métier de médecin, est rare et n'existe que dans certains Länder allemands. Notre région est donc intéressante pour ces jeunes collègues qui peuvent gagner de l'argent pour leur famille et se préparer à l'examen en même temps.
Et dans le service du docteur Lenz, on parle russe, allemand, bulgare, ukrainien, espagnol. En tout, 25 langues sont parlées dans cet hôpital. C'est ce projet tout à fait singulier qui a attiré Juliane Wanzik, chirurgienne d'origine argentine, qui vit désormais dans le Brandebourg depuis 4 ans. Mais la pratique au quotidien est loin d'être évidente dans un land marqué politiquement à l'extrême droite.
Lorsque les patients entendent mon accent, ils sont tout de suite moins aimables. Il y a un an, un patient a expressément demandé à être soigné par un médecin allemand.
Dans cette région où près de 40% des électeurs ont choisi le parti d'extrême droite AFD aux dernières législatives, cette politique inclusive ne fait pas que des heureux, comme Gerlinde, 84 ans.
Selon moi, il y a assez d'Allemands. Avant, j'aimais bien aller à l'hôpital, mais plus maintenant. Je n'aime pas ce qui se passe là-bas. Avant, chez nous, c'était mieux en Allemagne.
Même son de cloche du côté de Laura, jeune mère de famille.
C'est bizarre, honnêtement. Tout d'abord, on ne comprend pas ce qu'il dit, il faut écouter attentivement. Par exemple, l'autre jour, j'étais avec mon fils, parce qu'il avait presque 42 de fièvre, aux urgences pédiatriques. Et là, ils m'ont dit, ou plutôt, un médecin étranger m'a dit, il faut bien le laisser faire une poussée de fièvre, laisse-le, et ça ira. Mais non, ça ne va pas du tout, ça. Il a 1 an et demi, mon fils. Alors, comme on dit en bon allemand, je lui ai fait un doigt d'honneur, et je lui ai dit d'aller se faire voir, parce que ce n'est pas possible.
Ce discours est repris par l'AFD locale, devenu premier parti de la ville aux dernières élections. Son antenne à Pignon-sur-Rue, en plein centre-ville. Jean-René Adam, son dirigeant local, abonde aussi dans ce sens. Il ne comprend pas que les médecins allemands ne viennent pas s'installer à Perleberg.
On a du potentiel avec beaucoup de personnes âgées ici. Nous sommes le district le plus âgé de Brandebourg. Il y a suffisamment de travail pour les médecins.
Mais quand on lui demande son expérience personnelle avec cet hôpital, il est plutôt positif.
J'ai été très bien traité. J'ai eu affaire à un médecin russe et ce qu'il ne savait pas dire en allemand, je le savais en russe. Alors ce n'est pas un problème.
Dans un pays où il manquera 300 000 médecins en 2035, le principe de réalité s'impose. À la clinique, Tom, malade chronique, l'a bien compris.
Trouver un médecin de langue maternelle allemande, cela peut être long. Donc respect aux gens qui travaillent ici. Si un jour quelqu'un ordonnait à tout le personnel étranger de partir, on devrait sûrement fermer cette clinique.
Pour le docteur Lenz, les soucis de recrutement de l'établissement sont dus notamment à des facteurs comme la faible attractivité de la région, la baisse des vocations dans la médecine et également aux nouvelles attentes des futurs médecins.
La génération Z a d'autres priorités comme l'équilibre entre famille et travail. Ici, en zone rurale, cela peut vite être négligé.
Alors, il souhaite que la population s'en accommode, mais aussi les médecins médecins eux-mêmes qu'ils espèrent voir rester le plus longtemps possible. Et cela commence à l'intérieur de la clinique pour créer un véritable esprit d'équipe malgré les différences.
Nous avons lancé un projet très intéressant. Nous organisons des soirées internationales. Nous avons commencé par le faire sur la Syrie pour nos collègues syriens. L'idée, c'est de leur demander de nous présenter leur pays, leur culture, leur médecine, la formation pour devenir médecin en Syrie. Et nous avons invité tous les employés de la clinique pour qu'ils puissent faire connaissance et s'informer sur les autres nations que nous avons ici et ainsi avoir une ouverture sur le sujet.
Et le médecin de conclure.
Cet hôpital ne pourrait pas exister sans ces médecins étrangers.
Stefan Lenz et la direction de l'hôpital sont très impliqués dans la validation des acquis de ces médecins dont les heures de travail sont aménagées pour leur permettre de réviser et passer des entretiens blancs. Une façon d'assurer le futur de l'établissement.
Et en Angleterre, le service de santé publique, le NHS, est aussi à la peine. Les pressions sont nombreuses et une nouvelle expression est désormais utilisée, corridor care, le soin dans les couloirs. On retrouve à Londres notre correspondante Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour Frédéric.
Avec cette expression corridor care, peut-on dire que tout est dit ?
Oui, par manque de lits, par manque de place, des patients sont traités dans les couloirs, souvent sur des trolleys. Et ça n'est pas un phénomène isolé. Sky News a parlé à Matthew Traynor, chef exécutif du Queen's Hospital à Londres.
Nous avons parfois du mal à faire face au nombre de personnes qui attendent d'être pris en charge. Il arrive malheureusement que des patients reçoivent des soins dans les couloirs. Ce n'est pas ce que nous voulons, nous n'en sommes pas fiers, mais c'est le mieux que nous puissions faire dans les circonstances actuelles.
Le phénomène n'est pas non plus restreint à la capitale. La BBC est allée dans le nord de l'Angleterre, à l'hôpital de Chesterfield Royal. Le docteur Hal Spencer en est le directeur général.
Les lieux sont mal agencés, nous sommes très à l'étroit. Nous n'avons pas de salle d'attente dans la zone des traumas aigus. Et lorsque nous recevons 30 ou 40 patients à l'heure, comme c'est le cas parfois, ils sont installés un peu partout. Ils se retrouvent dans 3 ou 4 couloirs différents à attendre d'être vus et pris en charge.
Et les patients arrivent-ils à être traités correctement dans ces conditions ?
Les soignants font de leur mieux, mais selon le Royal College of Nursing, qui représente la profession infirmière, la réponse à votre question est non. L'organisme a publié un rapport en janvier après avoir interrogé plus de 5000 employés du NHS en Angleterre. 90% estiment que la sécurité des patients est mise en danger. Le personnel se dit démoralisé, doit parfois s'occuper de 40 patients dans un seul couloir et n'a pas un accès régulier à l'oxygène, au moniteur cardiaque et à d'autres équipements vitaux, dit le rapport. Certains disent même ne pas pouvoir pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire adéquate sur des patients victimes d'une crise cardiaque. Sky News a aussi parlé à une infirmière qui n'a pas voulu révéler son identité. Elle est juste appelée Sarah.
Parfois, je fais ce cauchemar. Je sors dans le couloir et il y a des cadavres dans des housses mortuaires sur des chariots. Un jour, un patient m'appelle pour me dire que sa mère avait vraiment du mal à respirer. Ses niveaux d'oxygène étaient si bas qu'elle a presque eu besoin d'être réanimée parce qu'il n'y avait plus de réserve d'oxygène sur le brancard où elle était.
Et comment le NHS en est arrivé là ?
Alors, sachant que la santé publique est décentralisée, rappelons qu'on parle ici de l'Angleterre et non pas de l'ensemble du Royaume-Uni, il y a plusieurs raisons. Population vieillissante qui vit plus longtemps avec des maladies chroniques, manque de main-d'œuvre, plus de 100 000 postes à pourvoir en septembre 2024, nombre record de patients sur les listes d'attente, leurs conditions parfois s'aggravant avant qu'ils ou elles ne soient soignés, mais aussi bâtiments et parfois équipements vétustes. Concernant les investissements, les gouvernements successifs, conservateurs et maintenant travaillistes, ont augmenté les moyens du NHS, mais ça ne suffit pas face à la demande. Alors en mars, le gouvernement a annoncé la fermeture de NHS England. NHS England, c'est l'organisme quasi autonome créé au début des années 2010 pour superviser le système de santé public en Angleterre. Ses performances, son fonctionnement et ses dépenses notamment, mais selon l'administration travailliste, c'était en fait un étage de plus, à un millefeuille administratif coûteux. Le but est donc de faire des économies. Officiellement, c'est également pour que les professionnels de la santé publique puissent gérer plus directement les investissements. Mais ça permettra aussi au gouvernement d'avoir plus fermement la main sur le fonctionnement du NHS.
Merci Marie Billon à Londres. Et on retrouve Grégory Recco pour notre chronique avec le média en ligne The Conversation. Bonjour Grégory.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes responsable des pages internationales du site et vous revenez sur les manifestations en Turquie après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Vous publiez un article très intéressant sur cette figure de l'opposition au régime d'Erdogan qu'on connaît finalement assez mal.
Oui Frédéric, il est important de souligner qu'au-delà de sa relative jeunesse, il a 53 ans, donc 20 ans de moins qu'Erdogan, au-delà de son énergie et de son charisme, Ekrem İmamoğlu, c'est avant tout 6 ans à la tête d'Istanbul, une métropole de 15 millions d'habitants où il a mis en place un modèle de gouvernance très particulier, ce que l'auteur de notre article appelle l'écrémisme. C'est une gouvernance qui s'appuie énormément sur les gens, où les formats participatifs sont présents à tous les stades de la prise de décision. Les habitants sont en permanence sondés, invités à se prononcer sur les questions les plus variées, qu'il s'agisse d'aménagement urbain, de transformation de bâtiments historiques en espaces publics, d'instauration de plans sociaux et ainsi de suite. Et c'est par ailleurs un système très transparent, puisque les séances du conseil municipal sont diffusées en direct, très horizontal, et il faut souligner qui donne beaucoup de place aux femmes avec des quotas qu'İmamoğlu a imposé à tous les échelons de son administration. Un modèle tout à fait opposé à celui très vertical de l'AKP, le parti du président Erdogan, et un modèle qu'İmamoğlu aurait bien aimé étendre à la Turquie entière. C'est donc plus qu'un homme qui a été écarté avec l'arrestation d'İmamoğlu, et aussi, ne l'oublions pas, avec lui d'une centaine de ses proches à la mairie d'Istanbul. C'est une voie alternative pour la Turquie que le pouvoir essaye d'empêcher d'advenir.
Et sur votre site, vous publiez un article sur un tout autre sujet, le livre blanc de la défense de l'Union européenne.
Oui, c'était un petit peu passé à travers les radars, mais le mois dernier, l'Union européenne a rendu public son livre blanc de la défense intitulé « Préparation à l'horizon 2030 ». Alors, qu'y a-t-il dans ce document ? Eh bien, tout d'abord, le constat que l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis pour assurer sa défense. Ensuite, l'énumération de tout ce sur quoi la défense européenne doit progresser. Introduction d'une préférence européenne en matière d'achat d'armes et d'équipements, développement des infrastructures de mobilité des armées afin de pouvoir, le cas échéant, les projeter rapidement vers l'Est, là d'où pourrait venir la menace, nécessité affirmée de soutenir l'Ukraine et d'intégrer son industrie à celle de l'UE. Et enfin, le document présente plusieurs pistes permettant de financer tout cela, mais la conclusion, hein, ce qu'il en ressort d'essentiel, c'est qu'en matière militaire, plus encore que dans d'autres domaines, ce sont les États qui restent les décideurs et que la défense de l'UE, eh bien, elle sera ce que les États voudront bien en faire. L'UE, en tant que telle, a surtout un rôle de coordination à jouer.
Et enfin, quelques jours après les célébrations pour l'enterrement du pape François, un article dans The Conversation France nous parle de Carlo Acutis. Qui est-il ?
Carlo Acutis, c'est ce jeune Italien mort en 2006 à l'âge de 15 ans d'une leucémie et qui, durant sa courte vie, avait été très présent sur Internet en créant de nombreux sites destinés à parler aux jeunes de la Bible, ce qui lui avait valu un très grand succès de son vivant et ce qui lui a valu, après sa mort, d'être béatifié. Et la béatification, c'est la dernière étape avant la canonisation, c'est-à-dire le moment où vous êtes officiellement considéré comme un saint. Il y a 10 000 saints reconnus par l'Église catholique. Carlo Acutis aurait dû rejoindre ce groupe dimanche dernier, le 27 avril, mais le décès du pape François a forcé le Vatican à remettre cette cérémonie à plus tard. En tout état de cause, Carlo Acutis sera le premier saint de la génération des millennials. C'est l'occasion pour l'Église catholique, au moment où elle redoute un vieillissement du cercle de ses fidèles, de se tourner vers la jeunesse. Et d'ailleurs, l'image la plus connue de Carlo Acutis, c'est une icône que l'on trouve dans une église de Londres, la ville où il est né, où on le voit avec un ordinateur portable entre les mains. Signe que même dans une institution aussi vénérable que l'Église catholique, on sait vivre avec son temps.
Merci beaucoup Grégory Recco et tous ces articles sont bien sûr à retrouver sur le site de The Conversation France avec lequel nous sommes partenaires. À bientôt.
À bientôt, merci Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Tout de suite, le débat du jour avec Romain Ozoui, sauf pour nos auditeurs d'Afrique de l'Ouest à qui nous proposons une demi-heure d'infos en peule.